Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Le programme alimentaire des Nations Unies lance un appel aux dons pour le Zimbabwe. Le pays connaît la plus importante crise de la fin de son histoire, alors que le GIEC s'apprête justement à publier un rapport pour préserver la sécurité alimentaire sur notre planète. Vous entendrez le porte-parole du programme alimentaire mondial dans un instant.
Nous irons ensuite en Équateur, l'un des pays qui soutient l'opposition au Venezuela. Hier soir, le président Nicolas Maduro a suspendu les négociations.
Donald Trump accueilli par des huées au Texas à El Paso. C'était hier soir, 4 jours après une fusillade meurtrière dans la ville. Sans jamais croiser le président, les manifestants ont tout de même réussi à se faire entendre. Nous rejoindrons notre correspondant outre-Atlantique.
Dans ce journal, nous vous expliquerons également pourquoi les livreurs de Deliveroo étaient mobilisés hier contre leurs conditions de travail.
Et puis pourquoi aussi les Britanniques boudent les campings français cette année. La photo au Brexit, vous le comprendrez. Voici donc un exemple criant du dérèglement climatique et des risques alimentaires qu'il provoque. Le Zimbabwe, autrefois grenier à céréales de l'Afrique australe, connaît la pire famine de son histoire. Les Nations Unies alertent par la voix du PAM, le Programme Alimentaire Mondial. Plus de 2 millions de Zimbabwéens manquent de nourriture et si rien n'est fait d'ici le début de l'année prochaine, ils seront 5 millions. Une situation catastrophique qui s'explique par plusieurs facteurs, nous dit Hervé Verroussel, il est porte-parole du PAM.
Il y a eu toute une série de facteurs extérieurs, je dirais, des facteurs liés au climat, sur la part du cyclone Itai il y a quelques mois, ou alors de la sécheresse importante que nous avons pour l'instant au Zimbabwe, mais également des facteurs économiques. Par exemple, le gouvernement zimbabwéen vient de prendre la décision d'interdire l'utilisation du dollar américain ou des autres devises pour les relations commerciales et d'obliger en fait les commerçants à utiliser la monnaie locale. Et ça a un impact négatif, surtout pour les plus pauvres et sur leur pouvoir d'achat. Donc l'ensemble de ces mesures, toutes mises ensemble, font que malheureusement, effectivement, le Zimbabwe vit pour l'instant sa pire crise d'insécurité alimentaire, donc sa pire crise de la faim de son existence. Pour le moment, plus d'un tiers de la population rurale, ce qui fait 3,6 millions de personnes, sont en phase critique au niveau de l'insécurité alimentaire. Mais d'ici janvier, qui est la période entre les récoltes, cela va augmenter à 5,5 millions de personnes, ce qui fera à ce moment-là 60% de la population rurale. C'est pourquoi nous faisons une demande de support à la communauté internationale. La demande financière pour l'ensemble des humanitaires est de 331 millions de dollars pour les 9 prochains mois, dont 173 millions de dollars pour cette demande urgente de support alimentaire.
Voilà pour l'alerte et la demande d'Hervé Verroussel du Programme Alimentaire Mondial. Il était interrogé pour France Culture par Valérie Crova. Et c'est pour tenter de répondre à ces pénuries alimentaires grandissantes que les experts intergouvernementaux sur le climat sont réunis en Suisse, à Genève. Les 195 pays membres du GIEC ont approuvé hier leur rapport. Le texte sera rendu public aujourd'hui. Il sera question notamment de la gestion durable des terres et de la sécurité alimentaire. Climat, va-t-on vers la fin, F-A-I-M, vers la fin du monde? Nous continuerons le débat dans les matins d'été sur France Culture avec nos invités ce sera après ce journal. Le président vénézuélien suspend le dialogue avec l'opposition et avec cela l'idée d'une fin de crise. Nicolas Maduro dit ainsi répondre aux nouvelles sanctions économiques américaines qui visent son gouvernement. Le député de l'opposition Juan Guaido, lui, était déjà présent à la Barbade pour engager les discussions avec le gouvernement. Et preuve encore que Nicolas Maduro ne veut pas lâcher le pouvoir au Venezuela malgré la pression internationale. Il a lancé des exercices militaires ces dernières semaines aux frontières du Venezuela. Plus d'un million d'hommes et de femmes sont mobilisés jusqu'à la fin du mois, Eric Sanson.
Armée de terre, marine, aviation, garde nationale bolivarienne et les volontaires des milices, toujours prêts à faire le coup de poing, voire le coup de feu pour le régime, c'est le banc et l'arrière-banc de la révolution bolivarienne qui est mobilisé. Ces exercices ont pour but de défendre le Venezuela contre les délits transfrontaliers. Ils sont aussi une réponse aux quelques 50 pays qui, mardi dernier à Lima, ont réaffirmé leur appui à l'opposant Juan Guaido. Néstor Popolizio, ministre péruvien des Affaires étrangères.
La communauté internationale doit soutenir les efforts du président intérimaire Juan Guaido pour récupérer la démocratie vénézuélienne et reconstruire son économie. La solution à la crise est urgente.
Après avoir interdit en janvier aux compagnies américaines d'acheter du pétrole vénézuélien, la décision au début de semaine de Donald Trump de bloquer les biens du régime aux États-Unis pourrait pousser de nombreuses compagnies à ne plus importer de pétrole vénézuélien. À Lima, le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a d'ailleurs conseillé à ces compagnies de ne pas risquer leurs intérêts commerciaux aux États-Unis pour aider un régime corrompu et agonisant. Et
j'ajoute que dans la foulée, le président américain a prévenu que son pays utilisera tous les outils adaptés pour stopper la dictature, dit-il, la dictature de Nicolas Maduro. Donald Trump, qui était hier dans l'Ohio à Dayton, puis au Texas à El Paso, deux villes marquées par des fusillades meurtrières le week-end dernier aux États-Unis. Les adversaires du président l'accusent d'en être à l'origine, en tout cas d'avoir alimenté un climat de violence et de racisme. Faisant fi des critiques, Donald Trump a passé la journée hier auprès des blessés, des familles de victimes et des secouristes, Gregory Phillips.
On a passé une journée incroyable, dit Donald Trump, alors qu'il s'apprête à quitter le centre de secours d'El Paso, où il est venu saluer les forces de l'ordre. Un peu plus tôt, le président américain avait passé une heure et demie dans l'hôpital de la ville. Trump n'a jamais croisé la route des 700 manifestants réunis plus loin. Ici, la représentante démocrate, Veronica Escobar, qui à la tribune dénonce les mots du président, qui, dit-elle, ont déshumanisé nos frères et nos sœurs d'origine mexicaine. Alors que cette journée aurait dû être celle du deuil et de la cohésion nationale, Donald Trump, à bord d'Air Force One, entre Dayton et El Paso, attaque ses adversaires politiques sur Twitter, Joe Biden, le Texan Beto O'Rourke ou encore la maire de Dayton, qu'il vient tout juste de quitter. À la fin de la visite présidentielle, la démocrate Nan Whaley est d'ailleurs plutôt amère.
Do I think that we're going to see another mass shooting tomorrow or Friday? Probably, because Washington will not move.
Est-ce que je pense qu'on verra une autre fusillade demain ou un autre jour ? Probablement, dit-elle, parce que Washington ne bougera pas là-dessus.
Grégory Phillips, correspondant aux États-Unis de France Culture. La police canadienne pense avoir découvert au nord de la région du Manitoba les corps des deux fugitifs, des deux hommes activement recherchés depuis plus de deux semaines maintenant pour un triple meurtre dans l'ouest du pays. L'enquête avait tenu la population en haleine dans cette zone marécageuse non habitée, infestée d'animaux sauvages et d'insectes. Le navire a dû changer de direction au tout dernier moment. Ocean Viking n'a pas eu le droit hier de faire le plein de carburant à Malte. Le bateau des ONG SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières continue donc directement sa route vers la Méditerranée centrale au large de la Libye. L'équipage souhaite porter secours aux migrants qui tentent la traversée de la Méditerranée.
France Culture, 8h08, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La Pologne veut empêcher le départ de ses jeunes diplômés.
Et le gouvernement polonais fait pour cela un geste envers les moins de 26 ans. Tous ceux qui gagnent moins de 19 900 euros par mois, tout cela ne paieront plus d'impôts, Juliette Jay.
Il devrait être 2 millions à en bénéficier, 18% de salaire en plus à la fin du mois qui n'iront plus au fisc. Michael Okun, 25 ans, travaille dans une compagnie internationale. Il reconnaît que ce complément de revenu n'est pas négligeable.
Même si je gagne un peu plus que le salaire moyen en Pologne, je ne peux presque pas économiser d'argent, car le coût de la vie est très élevé à Varsovie, en particulier pour louer un appartement. Donc oui, c'est une somme importante pour moi.
Important, mais pas suffisant pour le convaincre de faire carrière dans son pays.
Aujourd'hui, je voudrais partir à l'étranger. Les salaires sont plus élevés, la qualité de vie est meilleure et les gens sont plus tolérants. Cette suppression d'impôts ne m'a pas fait changer d'avis.
Pour François Bachoual, sociologue au CNRS, cette mesure est avant tout une stratégie politique du parti nationaliste au pouvoir, le PiS. À quelques mois des élections au Parlement, les membres du gouvernement cherchent à conserver leur électorat et à gagner des voix chez les plus jeunes.
C'est une mesure politique. Ils se posent comme les grands redistributeurs de la richesse nationale que les adversaires et les précédents gouvernements n'ont pas su rendre.
Les jeunes salariés, eux, attendent surtout une amélioration de leur qualité de vie. Plus d'1 700 000 Polonais ont émigré en 15 ans, selon l'OCDE.
Et en France aussi, les questions de qualité de vie et de salaire se posent pour certains travailleurs. Les coursiers des plateformes de livraison de repas, par exemple. Hier soir, ce sont ceux de l'entreprise britannique Deliveroo qui manifestaient à Paris, principalement, place de la République. Une cinquantaine d'entre eux sont ensuite allés sensibiliser les restaurateurs avec lesquels ils travaillent. Sans protection sociale et sous-payés, ils se disent esclaves de la nouvelle économie, Annabelle Grelier.
Ils ne sont pas des salariés, pas vraiment des patrons. Ces livreurs entrent dans la grande catégorie des auto-entrepreneurs. Ne relevant pas du code du travail, les syndicats traditionnels français, qu'ils soient de personnel ou de patronat, peinent à les protéger. Et ces livreurs se retrouvent dans le flou le plus total. Alain Griset, président de l'UDP, l'organisation représentant les commerçants, artisans et professions libérales, parle même de Far West et n'hésite pas à s'en prendre au gouvernement Macron.
Aujourd'hui, très clairement, le gouvernement accompagne ce qu'ils appellent ces nouvelles formes de travail, mais ces nouvelles formes de travail aboutissent, au bout du compte, à un nouvel esclavage et à totalement détruire le système social français. Et naturellement, là-dessus, l'UDP souhaite alerter l'ensemble des Français. Quand ils font appel à ces plateformes, aujourd'hui, non seulement ils mettent en difficulté ceux qui travaillent pour eux, mais globalement également, ils contribuent demain à détruire le modèle social sur lequel on est assis.
En Espagne, c'est d'ailleurs la sécurité sociale qui, au printemps dernier, a attaqué des livreurs devant la justice. Estimant que ces livreurs étaient de faux indépendants, elle réclame plus d'un million de cotisations impayées. Le jugement devrait tomber dans quelques semaines. Très attendu, il pourrait servir d'exemple et bousculer le modèle des livreurs en Europe.
Droit du travail, nouvelles conditions, c'était aussi une série d'émissions de Culture Monde diffusée en mai dernier sur France Culture. À retrouver à la carte sur notre site franceculture.fr. Que peut-on dire sur la gestation pour autrui à la télévision? Que doit-on montrer? Un parti pris est-il permis? Ces questions sont soulevées ces dernières heures par la saisie du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, un collectif d'associations qui dit rassembler des forces féministes et en faveur des droits humains. Ce collectif s'offusque d'un épisode de la série populaire Plus belle la vie. La GPA, dit-il, serait montrée dans cette série télé sous un jour favorable, Nicolas Ballu.
Le collectif d'associations dans lequel on retrouve les Chiennes de Garde ou l'Amicale du Nid reproche à la série phare de France 3 de banaliser une pratique d'exploitation des femmes et des enfants interdite par la loi. Fin de citation. Dans l'épisode du 23 juillet dernier, suivi par 3 millions de spectateurs, une avocate célibataire reconnaît avoir eu recours à une mère porteuse en Angleterre, elle le dit à un ami.
C'est elle qui va venir accoucher à la maison et comme ça le médecin qui me suit ici pourra déclarer le bébé comme étant le mien.
T'as conscience que c'est complètement illégal.
Vincent, c'est sûrement ma dernière chance d'être maman.
Puis l'ami en question en parlera avec une femme médecin plutôt favorable à la GPA. Malgré la précaution prise par les scénaristes, les collectifs leur reprochent de rendre la pratique acceptable socialement. La critique est reprise désormais par certaines personnalités des Républicains, comme Valérie Boyer ou Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Dans sa réponse, le producteur ne se place pas sur le terrain de la liberté de création dans une fiction, mais sur celui du débat. Plus belle la vie y est habituée, la série reprend régulièrement les questions de société de l'actualité chaude, du mariage pour tous à l'identité transsexuelle. On ne fait jamais de propagande, soutient Sébastien Charby. La question de la marchandisation du corps, nous allons la poser. La séquence va durer 4 semaines. Une façon de calmer le jeu. Le projet de loi sur la bioéthique doit être examiné à la rentrée avec l'extension de la PMA à toutes les femmes. La gestation pour autrui ne s'y trouve pas, mais elle en est aussi l'un des enjeux.
Cette loi-là a été discutée et adoptée déjà, c'était en juillet dernier. La voilà publiée au Journal officiel. La loi réformant la fonction publique en France est promulguée. Elle prévoit, je le rappelle, un recours accru aux contractuels et un mécanisme de rupture conventionnelle comme dans le secteur privé. Revoilà l'effet Brexit et l'incertitude qui va avec. Cet été, les Britanniques sont nombreux à rester au Royaume-Uni. Eux qui avaient l'habitude de passer leurs vacances en France sont aux abonnés absents. Ils craignent une sortie de l'Union européenne sans accord à la fin du mois d'octobre et manifestement, ils préfèrent donc économiser. C'est l'analyse de Nicolas Daillot, il préside la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air.
L'année dernière, les Britanniques avaient déjà moins fréquenté les campings français, ils étaient déjà moins venus en France. Néanmoins, cette année, quand on regarde les premiers éléments statistiques dont on dispose, on s'aperçoit que la baisse est beaucoup plus importante que l'année dernière. On nous parle de moins 10, moins 20, voire moins 30% de touristes britanniques dans les campings français. Donc c'est beaucoup plus que l'année dernière, ça semble s'accélérer. Quand on écoute nos clients britanniques, grosso modo, on constate que, bien entendu, il y a un effet d'évaluation de la livre, dépréciation de la livre, que d'autre part, l'incertitude liée au 31 octobre fait que certains Britanniques, ça semble très clair lorsqu'on les écoute, ont préféré rester au pays. Et d'ailleurs, les premiers chiffres qui ressortent de la fréquentation touristique au Royaume-Uni nous indiquent que les Britanniques sont restés au Royaume-Uni pour leurs vacances d'été. Et puis, il y a peut-être un autre phénomène, même s'il est très difficile à mesurer, c'est que les Britanniques, qui sentent peut-être des difficultés économiques poindre dans leur pays, ont un réflexe patriotique en passant leurs vacances au Royaume-Uni pour que les devises restent dans leur pays, qui va peut-être connaître des mois et des années difficiles, au vu en tout cas de ce qu'on peut entendre de ci, de là.
Des propos recueillis par Hugo Charpentier. En plein été et malgré l'absence des Britanniques, les professionnels de l'hôtellerie affichent tout de même un nombre de nuitées en hausse, 3% par rapport à l'année dernière. Le tout sous des températures en ce moment plus acceptables, plus supportables. Il fait ce matin 21 degrés à Strasbourg, 23 à Nantes et Paris, 25 à Bordeaux et Lyon, 30 degrés à Marseille, avec du soleil sur une majeure partie du pays, ce qui n'arrange pas la sécheresse dans 81 départements en ce moment. La pluie aujourd'hui est prévue seulement sur les côtes de la Manche jusqu'au Pas-de-Calais, Benoît.